Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Bien, manger, pour la plupart d'entre nous, c'est au cœur de notre vie. On fait des courses, on va au marché, on choisit nos aliments avec soin, avec goût aussi, appétit. On fait l'épicerie des fois deux à trois fois par semaine. Moi, des fois, je m'y rends assez souvent. Il me manque sans cesse quelque chose. Et je me rends compte en observant que l'industrie agroalimentaire a un rôle clé dans l'amélioration de la santé des populations en participant à la modification de l'alimentation des consommateurs, parfois, en tout cas du moins on le souhaite, a aussi changé les habitudes de vie, à découvrir de nouvelles choses. Le programme DUX célèbre les initiatives novatrices dans le domaine alimentaire et en deuxième partie d'émission, Lynn Gosselin, présidente et éditrice d'Edicom, sera là pour nous en parler. Pardonnez-moi pour ce pont, mais je vais vous présenter d'abord mon premier invité parce que, vous savez, on est à quelques jours, là, on vient de passer le premier jour de l'an et il y a plusieurs d'entre nous qui ont fait des résolutions. Si vous êtes comme la majorité des gens, vos objectifs sont probablement liés à la santé, la perte de poids ou la mise en forme. Dans mon cas, c'est améliorer mes habitudes de sommeil. Mais faire des résolutions, c'est une chose, les conserver, c'en est une autre. Et j'en parle avec Jean-François Villeneuve, lui qui est psychologue en modification des habitudes de vie. Jean-François Villeneuve, bonjour, merci d'être là.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Un psychologue en modification des habitudes de vie, je pense que vous êtes la personne bien choisie pour nous parler de ce sujet-là aujourd'hui.
Effectivement.
ce que je tentais de dire en introduction, c'est que lors des premières semaines, quand on fait une résolution, quand on choisit de faire des changements dans nos habitudes de vie, tout semble parfait, on suit nos habitudes à la lettre, on est extrêmement motivé, mais après quelques semaines, souvent, pour différentes raisons, on revient à nos mauvaises habitudes. Je me demande d'entrée de jeu, c'est quoi le problème? Peut-être que c'est dans la formulation elle-même de nos résolutions.
Bien, effectivement, c'est un phénomène là, qu'on connaît bien. On était au mois de décembre, on était épuisé. Là, on arrive pendant les vacances, on mange beaucoup, on boit. Ensuite, bien là, on n'est plus capable de manger comme ça. On a le goût de prendre soin de notre santé parce que là, on ne se sent plus trop bien. Donc là, on dit, bon, il me semble que c'est le temps de se mettre en forme, de bien s'alimenter. Puis on a vraiment une motivation intrinsèque, intérieure, à dire, il me semble que ce serait intéressant que je prenne soin de moi. Donc, c'est un phénomène qui se passe habituellement au début du mois de janvier. Sauf que là, on part, on a plein d'énergie. Et effectivement, des fois, après deux, trois semaines, bien, le défi, c'est de le maintenir dans le temps. Et c'est là que j'entre en jeu.
Mais est-ce que c'est dans nos... Bon, je le disais tout à l'heure, souvent nos résolutions sont liées à la santé. On veut perdre du poids, on veut arrêter de fumer, on veut se remettre à l'entraînement. Moi, c'est améliorer mes habitudes de sommeil, par exemple, manger plus de fruits, plus de légumes. Est-ce que c'est peut-être dans nos formulations qui sont peut-être pas tout à fait justes?
Bien, effectivement, je pense au début, c'est important de prendre un moment pour regarder qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, disons, pour 2015. Parce que c'est vrai que là, au début, on est en janvier, on n'est pas au travail, là, on a plein de temps, et là, on a l'impression qu'on va pouvoir tout réussir. Donc là, on dit, bon, là, je vais mieux manger, mieux m'alimenter, je vais apprendre une langue seconde, je vais aller en voyage, je vais placer mes finances. C'est correct de vouloir faire tout ça, mais souvent, on se perd, parce qu'après, dans la vie, ben là, il y a notre travail, il y a des imprévus qui arrivent, et on n'est comme plus trop capable de suivre tous nos objectifs tout ça en même temps. Alors, c'est correct d'en poursuivre plusieurs en même temps, mais ça peut être intéressant de se dire, s'il y en avait un cette année, comme vous avez parlé de vos habitudes de sommeil, mais s'il y en a un que je veux absolument pas passer à côté, ce serait lequel? Et de pouvoir peut-être se poser cette question-là en partant, s'il y avait une chose, bien, c'est laquelle que je choisirais, et ensuite de pouvoir concevoir un plan d'action à partir de ce moment-là.
Mais si on a plusieurs résolutions, Jean-François, est-ce que c'est préférable peut-être d'en avoir une en majeur et puis les autres en mineur?
Oui, effectivement. Comme je dis, il n'y a pas de problème à poursuivre plusieurs objectifs. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a plein d'objectifs, plein de projets, mais surtout pour les objectifs qui sont plus difficiles, on parlait de perte de poids. Ça, c'est une des choses à laquelle je m'attaque avec mes clients et mes clientes. C'est un défi qui est important et qu'on a besoin d'avoir vraiment une bonne structure de soutien pour y parvenir. Donc, c'est important de dire peut-être ce serait quoi mon objectif majeur. Mm-hmm. Et les autres, je peux continuer à les poursuivre. Mais l'objectif majeur, là, je veux mettre un plan d'action pour m'assurer de ne pas passer à côté de cet objectif-là.
Et comment on se fixe des objectifs précis, réalistes?
Effectivement. Donc, on a, qu'on pourrait dire, notre grand objectif qui peut être, je sais pas, de perdre du poids ou les habitudes de sommeil, etc. Mais là, ensuite, on a besoin de sous-objectifs. Et le truc qu'on peut utiliser, c'est qu'il y a des recherches en psychologie de la santé qui ont montré qu'il y a 5 composantes qui augmentent les probabilités de pouvoir atteindre son objectif dans la manière dont je l'ai défini. Et on appelle ça les objectifs SMART.
Ah, okay.
Donc, les objectifs SMART, c'est quoi? C'est un acronyme. Donc, chaque lettre signifie quelque chose. C'est un peu comme vous avez en parlé. S pour spécifique. Donc, c'est-à-dire, si je dis, moi, je veux faire plus de sport cette année, bien, ça a moins de chances de se passer que si je dis, bien, moi, je veux nager cette année.
Mm-hmm.
Donc, là, il y a déjà quelque chose de plus précis. À ce moment-là, j'ai plus de chances parce que dans ma tête, c'est plus concret. M pour mesurable. Ce que ça veut dire, c'est que si je dis, ben je veux nager cette année, OK. Mais si je me dis, bon, cette année, j'aimerais ça y aller 2 fois par semaine, puis, je ne sais pas, un minimum de 30 minutes à chaque fois que je suis dans la piscine, puis je nage, mais là, j'ai encore plus de chances de passer à l'action que je fais juste dire, ben là, je vais aller nager. Et bien sûr, moi, je suggère des objectifs qui sont minimum en partant. Juste pour partir la machine.
Mm-hmm.
Parce qu'au début, ça semble lourd, c'est pas évident, il faut s'organiser. Mais il y a des recherches qui démontrent, au niveau de la volonté, que si on se donne juste un petit objectif pendant 2 semaines, puis on le suit fermement, des fois, ça peut être juste de dire, je vais faire 2 marches de 15 minutes. Mais là, à ce moment-là, ben il y a comme j'ai comme aiguisé ma volonté, je suis prêt à en prendre des plus audacieux. Puis même, des fois, c'était des objectifs très simples, comme je fais le lit le matin. Pour moi, personnellement, j'ai des petits problèmes au niveau des chevilles, c'est de faire 5 minutes d'exercice avec mes chevilles le matin, mais là, tout d'un coup, j'exerce ma volonté, une certaine intentionnalité, et là, tout d'un coup, à un moment donné, je suis prête à prendre des objectifs qui sont plus importants. Donc, on continue. S spécifique, M mesurable, A pour attirant. Donc, c'est sûr que si mon objectif est attirant, j'ai le goût d'aller, je sais pas, faire un cours de Zumba, je trouve ça intéressant, j'ai plus de probabilité de me déplacer que si je fais quelque chose d'ennuyant. Ensuite, AB, on a un peu parlé pour réaliste. Donc, comme je dis, prendre des objectifs qui sont plus minimum en partant. Et T pour circonscrit dans le temps. C'est-à-dire de dire, bon, OK, si là, je me dis, moi, c'est juste qu'à la fin de l'hiver que je me donne cet objectif-là, j'ai plus de chances de l'avoir que si je dis, bien là, il faut que je tienne mon régime alimentaire pour la vie. Je me dis, OK, c'est circonscrit dans le temps, je suis prêt à donner cet effort-là, puis après, on réévaluera. Il y a comme les défis « j'arrête, j'y gagne » et les défis 5-30 aussi, donc pour l'activité physique, alimentation. Ils m'ont dit, ben c'est du 1er mars au 11 avril, donc il y a une période circonscrite, il y en a d'autres, plein d'autres qui existent et qui peuvent vraiment bien nous motiver. C'est aussi des moyens intéressants là, pour se soutenir et s'assurer qu'on passe à l'action et en quelque part qu'on va plus passer à l'action que si on s'était donné aucun objectif. C'est un peu ça, le but.
Oui. Ça doit aider aussi de connaître la date de début et de fin également.
Oui. Ça permet de dire, là, ben là, je vais centrer mon attention de tel moment à tel moment. Donc, c'est mobilisateur.
Mm-hmm. Donc, avec cette méthode SMART, c'est possible de changer nos habitudes, nos comportements, parce que parfois, on a l'impression, on entend ça parfois, Jean-François Villeneuve, on peut pas changer, on est comme on est, il faut accepter, être résilient, mais c'est possible d'effectuer des changements dans notre routine.
Bien, ça c'est toute la délicatesse, parce que c'est sûr que c'est possible. Hein, il y en a qui ont perdu du poids. Même ceux qui disent que c'est pas possible, il y a des moments où ils ont été plus actifs physiquement, il y a des moments où ils ont perdu du poids, donc c'est possible de modifier. L'un des problèmes, c'est que souvent, on se met des objectifs tellement élevés que là, on ne les atteint pas, puis on a l'impression qu'on n'a rien fait, que ça n'a rien donné, et que c'est un petit peu un leurre, ça. À quelque part, non. Même si sur l'année, je ne sais pas, j'ai fait du sport 6 mois sur 12, ben j'en ai quand même fait du sport 6 mois sur 12. Donc, j'ai quand même amélioré ma moyenne de pratique d'activité physique en quelque part. Et là, quand je suis capable de mettre mon attention sur ce que j'ai accompli plutôt que sur ce que j'ai pas fait, bien là, tout d'un coup, il y a un changement qui se passe à l'intérieur de moi. Et moi, quand mes clients viennent me voir, souvent, c'est mon rôle à moi au début de leur faire reconnaître. Bon, mais tu t'es quand même mis à l'action. Oui, tu voulais faire 3 fois l'activité physique, mais tu en as fait 2 fois, puis l'automne passé, tu n'en as pas fait du tout. Donc, on s'améliore. Et c'est une des variables les plus importantes au niveau du changement de comportement qu'on appelle en psychologie le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est-à-dire, c'est la confiance que je suis capable de mobiliser pour atteindre des résultats. Donc, quand la personne elle commence à voir plus les petits succès qu'elle est capable d'obtenir, c'est comme si tout d'un coup, la roue elle commence à avancer et la personne peut avancer plus rapidement et s'améliorer de plus en plus.
Et j'imagine que c'est ce qui nourrit également la motivation.
Aussi, effectivement. Pour faire en sorte que la motivation puisse être allumée, bien, ça demande 2 ingrédients fondamentaux. Parce que la motivation, ça peut être bien compliqué, mais si on garde ça simple, il y a 2 éléments qui vont faire que je vais être motivé à passer à l'action. Le premier élément, c'est il faut que ce soit important pour moi. Donc, pour votre changement, c'est de dire pourquoi moi, je veux modifier mes habitudes de sommeil. Et prendre le temps de l'écrire. Des fois, il y en a qui vont se faire des affiches, des tableaux.
Oui.
Donc, c'est quoi ma raison à moi là, qui me motive? Ça peut être pour avoir plus d'énergie, pour être plus joyeux, avoir plus intellectuellement, être plus allumé, peu importe. Quelle est votre raison? Donc, ça, on connaît ça, ça, c'est important. Mais le deuxième élément pour être motivé, c'est la confiance. Parce que si j'ai aucune, tu sais, ça doit être bien important pour moi de modifier mes habitudes de sommeil, de perdre du poids, mais si j'ai aucune confiance que je peux y arriver, je ne serai pas motivé à passer à l'action.
Mm-hmm. Alors, tout à l'heure, on parlait de miser sur ce que l'on a fait au lieu de ce que l'on n'a pas fait, c'est-à-dire si j'ai voulu aller m'entraîner 3 fois semaine, mais j'y suis allée qu'une fois, ben il faut miser là-dessus, regarder ce côté positif. Parce que j'ai l'impression, Jean-François, et vous me corrigez si je me trompe, que c'est souvent quand on abandonne 1 fois, 2 fois que l'on abandonne tout à la fois.
Bien, ça, c'est un point important. C'est qu'une des façons de pouvoir maintenir son changement de comportement, c'est d'accepter que des fois, on va échouer, que des fois, ça ne fonctionnera pas, que ça va sûrement prendre plus de temps qu'on le pensait, si c'est un changement important, que des fois, on va être déçu aussi, que des fois, on va être frustré parce qu'on n'y arrive pas, qu'il va y avoir des obstacles qui vont venir dans le chemin. Et ceux qui réussissent, ce ne sont pas les personnes qui n'ont pas d'obstacles, qui n'ont pas de rechute, qui n'ont pas des moments où ils sont déprimés, c'est des personnes qui sont en mesure de gérer ces moments-là. Donc, en quelque part, ça demande beaucoup d'empathie, d'être capable de s'accueillir, de s'offrir beaucoup de compréhension, de bienveillance, les moments où là, ça va un peu moins fort, et ensuite de se relancer, d'essayer quelque chose de nouveau, d'aller chercher aussi le soutien dont on a besoin, quelque chose de vraiment clé, de dire, d'être honnête envers soi-même, surtout si c'est un projet qui est ambitieux, de dire, pour vraiment y arriver, quel soutien que j'ai besoin? Ça peut être un soutien de professionnel, psychologue, nutritionniste, kinésiologue. Ça peut être des soutiens de son entourage. J'ai besoin d'aller chercher le soutien de mon conjoint, de ma conjointe. Sinon, là, ça va être trop. J'ai besoin peut-être d'avoir des informations. Je ne sais pas comment y arriver. Alors, de se poser la question, de dire quel soutien que j'ai besoin, ça peut aussi faire toute la différence. Et faire en sorte que malgré les réussites et les échecs et les moments difficiles, que je me relance, que je réessaie et que tranquillement, je puisse aller vers l'atteinte de mon objectif.
On parle de soutien, Jean-François Villeneuve. Comment on peut soutenir nous-mêmes, nos proches, un conjoint qui arrête de fumer ou un collègue qui veut se mettre au jogging, par exemple?
Bien, je pense qu'en lui posant des questions, tout d'abord, au lieu de lui imposer, de dire « fais ça, c'est bon, pour ci, pour ça », souvent, ils savent de toute façon. Mais lui poser, ben toi, pourquoi tu veux changer tes comportements? C'est quoi qui est important? Juste le fait d'établir ce lien-là, que la personne l'identifie pour elle-même, déjà, ben là, ça va être plus motivant. Donc, comment je peux établir une complicité? Lui poser la question, comment je peux t'aider? Parce que souvent, on ne sait pas trop comment, puis on peut aider différemment. De dire, comment moi, je pourrais t'aider? Tu sais, j'ai peur d'un peu de te déranger ou de trop m'imposer. Moi, j'aurais le goût de te soutenir. De quelle manière? La personne, souvent, va pouvoir le dire aussi. Comme on disait, bien, de pouvoir reconnaître aussi les petites avancées, les petits succès. Ça peut être différentes façons de pouvoir offrir son soutien. Mais je pense que la meilleure réponse que je peux dire à ça, c'est de dire carrément, de dire, ben là, je ne sais pas trop comment te soutenir, mais j'aimerais ça être un plus et non un moins pour toi, de quelle façon je peux m'y prendre.
Et aussi, Jean-François, comment faire pour pas que ces changements de comportement, d'habitude, deviennent une source d'anxiété pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour la famille? Des fois, on change des habitudes et puis ça crée un stress chez les enfants, par exemple.
Bien, encore là, d'en parler directement. Hein, si on a l'impression que là, on dit, bien là, ça peut... Tu sais, moi, je vais arriver avec d'autres aliments à la table. Mm-hmm. Vous, comment vous trouvez ça? Tu sais, souvent, on a juste besoin d'établir une complicité, de dire, bien, si jamais ça vous dérange trop, dites-le-moi. Moi, j'aimerais ça si vous pouviez participer un peu, m'aider, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, peut-être que si on appréhende, on a certaines craintes à ce niveau-là, mais de l'ouvrir et d'en parler directement. Et je pense que tant pour soi que pour notre entourage, une des clés, c'est en quelque part d'en faire un jeu.
Mm-hmm.
Donc, de voir comment qu'on peut s'amuser à travers ça, comment qu'on peut établir, au lieu que notre changement de comportement nous éloigne de nos proches, comment on peut faire pour que ça crée une complicité, que là, on va aller, je sais pas, voir un documentaire ensemble, apprendre ensemble, on va échanger, on va s'amuser un après-midi à faire une recette. Sans se prendre au sérieux dans tout ça, comment qu'on peut s'amuser, faire un jeu, faire un genre de tableau, un thermomètre qui va, où on va atteindre nos objectifs. Donc, comment qu'on peut transformer ça en jeu, puis quand c'est plus rendu un jeu, ben là, de se poser des questions, puis comment on peut plus revenir dans le plaisir là-dedans.
Et ça devient rassembleur à ce moment-là.
Ouais, puis chacun peut se donner ses propres objectifs. Tu sais, moi, ça peut être au niveau, ben là, je veux changer mon alimentation. Mon fils, ça va être au niveau de ses études. Chacun décide qu'est-ce qu'il veut travailler, puis là, on s'amuse là-dedans, puis on se fait des règles pour se soutenir et non pour se nuire un et l'autre.
Oui, oui,
se
blâmer.
Donc, le changement de comportement devient une opportunité d'apprendre un sur l'autre, une opportunité aussi de vivre, d'apprendre à vivre avec les défis, les échecs, les difficultés. Donc, ça peut être une très, très belle aventure à vivre en famille.
Et en terminant, Jean-François Villeneuve, justement, l'échec, j'ai envie d'y revenir. Vous dites quoi à un client ou à un ami qui a échoué dans sa résolution, c'est-à-dire il a recommencé à fumer, il a cessé l'entraînement, il s'est remis à manger du fast-food, par exemple?
Bien là, moi, à ce moment-là, je l'accueille avec un grand sourire, je me frotte les mains, puis je dis « c'est super ». Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir identifier quel est l'obstacle qui t'a fait échouer cette fois-ci. Donc, et là, on va pouvoir trouver un moyen. Donc, peut-être que c'était le stress. Donc là, tu as été stressé et là, tu t'es mis à remanger du fast-food. Ah, mais c'est génial, on vient de trouver un élément qui fait obstacle à ton changement de comportement. Donc, à ce moment-là, en l'ayant bien identifié, on va trouver des moyens concrets pour mieux gérer ton stress et on va les prendre une après l'autre parce qu'on peut pas savoir combien de tentatives ça va te prendre, hein, combien de rechutes qu'il va avoir. Probablement qu'il va en avoir un paquet, mais on ne sait pas combien. Mais ce qu'on peut faire suite à la rechute, c'est qu'on peut apprendre de ça, de regarder quel a été l'obstacle, d'expérimenter des moyens pour déjouer l'obstacle. Et si tu arrives à pouvoir déjouer un obstacle après l'autre, bien là, c'est certain que tu vas te diriger vers le changement que tu souhaites.
Oui. Tout ça est très, très inspirant, Jean-François Villeneuve. Merci beaucoup. Ça a été une très belle conversation, très éclairante, très motivante. Je rappelle ou je nomme votre site web www.jfvilleneuve.com et je rappelle que vous êtes psychologue en modification des habitudes de vie. Merci beaucoup. Une très bonne année 2015 à vous.
Merci, ça fait un plaisir. Une bonne année à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Bonjour, Lynn Gosselin.
Bonjour, ça va bien?
Oui, vous aussi.
Oui, ça va super bien.
Vous êtes présidente et éditrice d'Edicom, et on peut dire que de votre côté, améliorer l'état de la santé générale de la population, que ce soit les enfants et les familles, par l'alimentation, c'est quelque chose que vous avez compris.
Oui, bien, c'est-à-dire chez Edicom, oui, et on a la chance d'avoir un programme qui s'appelle DUX et qui nous permet, DUX veut dire meneur, leader en latin, et qui nous permet de regarder ce qui se fait du côté de l'industrie alimentaire, de pouvoir récompenser les initiatives qui mettent en marché ou qui commercialisent, en tout cas, ou qui communiquent un volet qui s'en va vers la direction d'améliorer la santé. Donc, c'est pas juste des produits santé, mais c'est des initiatives qui vont vraiment vers l'amélioration de la santé pour avoir une offre alimentaire encore plus saine sur les tablettes des consommateurs.
Oui, pas juste des produits santé, parce que je farfouillais sur votre site, je regardais les lauréats 2013-2014, là c'est la troisième édition là, du programme DUX en 2015, et il y avait par exemple une expérience, je pense à Jeune Pousse, là, expérience sensorielle, donc c'est vraiment aussi pour ouvrir un petit peu les consciences, pour créer de l'ouverture chez le consommateur.
Mon Dieu, que c'est bien dit. Oui, effectivement. C'est qu'on se rend compte que souvent, présentement, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui se fait de la part de l'industrie, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas bien, là, bien au contraire, mais tout ce qui se fait de la part de l'industrie ou des OBN, des gens dans le secteur de l'alimentation, c'est négatif. Alors qu'il y a des initiatives ou des choses qui se font qui sont extrêmement bien. Jeune Pousse en est un bon exemple. Je vous en donne d'autres après. Mais oui, de faire comprendre aux gens comment au niveau sensoriel ou comment au niveau du goût, on peut rééduquer nos papilles. Jeune Pousse s'occupe de ça. Puis on trouvait ça important de justement dire, ah, c'est le fun de récompenser cette initiative-là. Et ce que fait DUX, c'est qu'il y a trois grands volets. Donc, on a regardé pour pouvoir récompenser tant le produit, tant les messages de communication ou tout ce qui est plus dans l'ordre de OBNL ou non alimentaire, pour pouvoir dire, ben parfait, on va regarder ce qui se fait et on va vraiment récompenser ce qui, on trouve, donne une amélioration. Comme je disais d'entrée de jeu, faut pas confondre, tout n'est pas nécessairement ce qu'on valorise santé, mais ça tend vers. Un bon exemple, en 2013, il y avait les croquettes de poulet. Bon, ben les croquettes de poulet, tout le monde va dire, ben oui, mais c'est pas un produit santé. C'est vrai quand on le regarde, mais quand on a récompensé ce produit-là en 2013, c'est parce qu'ils ont lui-même diminué en grande quantité le sel de leurs croquettes, offrant aux consommateurs ainsi une possibilité de se procurer un produit moins salé. Donc, c'est ça, Duc.
Du côté de l'email, ça.
Exactement.
Oui, oui. Donc, quelles sont les grandes catégories?
Il y a trois grandes catégories. Donc, il y a la catégorie produits qui récompense ce qu'on retrouve sur les tablettes des épiceries, tous les produits de consommation courante. Il y a la catégorie communication, qui sont plus des messages grand public que l'industrie ou que les entreprises peuvent faire pour faire mieux comprendre une saine alimentation aux consommateurs. Et l'autre catégorie, c'est la catégorie projet. Donc, tous des projets qui peuvent se faire des fois dans les arénas, qui peuvent se faire dans les villes, qui peuvent se faire en industrie. On a eu une industrie, d'ailleurs, qui a gagné l'année passée, qui est une entreprise non alimentaire et qui s'appelle Solutions Mécaniques, qui, eux, ont été récompensés parce qu'ils ont mis une politique dans leur entreprise pour éliminer la malbouffe.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est dans la catégorie projet.
Et en quoi le programme DUX, et je le disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, Lynn Gosselin, je le disais tout à l'heure, l'industrie agroalimentaire, elle a un rôle clé, un rôle extrêmement important en ce qui a trait à la santé des populations, modification des habitudes de vie, on le disait, là, découvrir de nouvelles choses. Et en quoi ça peut intéresser le grand public? Parce que là, on parle vraiment du secteur agroalimentaire entre eux, mais ce qu'on souhaite, c'est d'aller rejoindre les consommateurs.
Ah oui, et c'est pour ça qu'on a fait, juste pour dresser un petit portrait très, très rapide, moi j'ai étudié en technique de diététique et en sciences technologie des aliments. J'ai œuvré longtemps dans le monde alimentaire, dans l'industrie, et je regardais ce qui se fait de bien ou moins bien. Et je me disais, comme consommatrice, comment je pourrais, moi, être interpellée? Et on a sorti le vote du public justement, en disant, ben, on veut permettre aux gens de pouvoir voter eux autres, de s'intéresser aux projets qu'on présente. Donc, oui, c'est des projets qui touchent l'industrie. Mais quand on est consommateur puis qu'on va sur le site de programmedux.com et on clique sur le bouton « Je vote », chaque consommateur peut lire sur tous les projets et voter, donc émettre son choix, émettre son opinion, parce que l'alimentation, c'est quasiment voter. Là, quand on prend un produit et on le choisit sur la tablette, on a un rôle comme consommateur extrêmement important que des fois, on sous-estime, je crois.
Oui, donc le grand public peut aller voter au programme Dux.com. Il y a des super beaux prix aussi là, qui sont remis pour des gagnants. D'ailleurs, les prix pour les récipiendaires des Dux, à quoi ça ressemble, Lynn Gosselin?
C'est principalement une reconnaissance. Okay. Donc, les gagnants, il n'y a pas de prix monétaire remis. Les gens participent parce qu'ils ont le goût de faire valoir ce qu'ils ont fait de bien. Fait que ce qu'ils gagnent, nous, à l'intérieur de nous, on a un magazine qui s'appelle Le Must, on a un site, le site Internet, on a le Dux aussi, comme vous mentionnez, programmedux.com. Donc, les gens reçoivent beaucoup de visibilité pour leurs produits lorsqu'ils gagnent. C'est principalement ça. Ils reçoivent un trophée. Et ils peuvent l'utiliser dans leur communication pour dire que ils ont gagné un prix. Donc, on a vu, mettons, les barres Max l'afficher sur leur communication. F. Ménard, qui a gagné l'année passée, aussi l'ont mis dans leur nouveau magasin. Fait que c'est une fierté pour eux autres parce que vu qu'on célèbre tout ce qui est des bonnes initiatives, quand les gens participent, ils ont le goût de faire valoir ce qu'ils font de bien auprès du consommateur puis le font connaître de cette façon-là.
Et d'ailleurs, le gala se tiendra le 21 janvier prochain, c'est bien ça?
Oui, ça s'en vient.
On vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour cette journée-là. Et je rappelle que le programme Dux, c'est plusieurs volets, là. Oui, c'est le programme Dux, c'est également le gala, mais c'est une plateforme de web diffusion. C'est un grand réseau de communication également, un partage de connaissances. Programmedux.com, Foodinfo, foodinfo.tv aussi également, qui est pas mal chouette, Lynn Gosselin. Je rappelle, vous êtes présidente éditrice d'Edicom, vous étiez là pour nous parler du programme Dux, qui célèbre les initiatives novatrices dans le domaine alimentaire. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui et peut-être qu'on se croisera le 21 janvier.
J'espère, ce sera un plaisir de vous avoir avec nous au gala.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Rémi Hermoso à la mise en onde. Marianne Paquette au micro. Je vous rappelle, on est en rediffusion à 17h. Vous pouvez nous suivre au www.canalm.org. Pour nous joindre par téléphone, 1-800-361-0635, poste 220. Et je vous rappelle également que C'est bon pour la santé est présent sur Facebook et Twitter. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et protégez-vous du froid. Bye bye.